Le groupe Louange nous a emmenés dans cette adoration du Dieu vivant et omniprésent. C'est un grand mot, omniprésent, mais ça veut dire qu'il est toujours là, simplement. Toujours là. Et dans la réflexion de ce Dieu que parfois on ne voit pas, mais qui est toujours présent. De ce Dieu qui, en fait, semble ne pas être là, simplement ne pas être là, ou pas visible, et qui, en fait, sait tout, prépare tout, prévoit tout, guide et conduit chacun de ses enfants. Dieu habite dans ses enfants. Dieu habite en nous. Oui ? Oui ? Dieu habite en nous. La parole a été faite chair en Jésus-Christ, venu dans le monde. Le Christ a vécu et témoigné du plan de Dieu. Il a été crucifié, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est retourné auprès du Père et il nous a envoyé son Esprit pour qu'il nous remplisse et qu'il vive en nous. Et la parole de Dieu nous interpelle, chacun de nous, et nous dit « Qu'est-ce que tu fais avec cela ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Je vous propose de réfléchir ce matin ensemble en lisant deux textes. Le premier texte, c'est un texte de Jean, c'est le début de l'évangile de Jean. Jean 1. Je vous invite à écouter cette lecture. Jean 1, versets 6 à 14. « Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vit comme témoin, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. » Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Verset 14, qui était le verset le plus important de ce passage pour moi, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et un deuxième texte, qui peut ne pas avoir de rapport avec, peut-être, à première lecture, qui est dans les... La lettre de Paul aux Romains, au chapitre 10, les versets 11 à 15, Romains 10, versets 11 à 15. On commence au verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois, pardon, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif ou le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis l'importance de ces deux versets qui suivent. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu, dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne pour prêcher ? Et comment y aura-t-il des gens pour prêcher s'ils ne sont pas envoyés ? Jusque-là, la lecture de notre texte. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est le premier texte que nous avons lu. Dieu parmi nous. Dieu est parmi nous. Chacun de nous, et là, la parole s'adresse vraiment à chacun de nous dans sa particularité. Chacun de nous représente pour lui-même tout un monde de besoins, de spécificités. Nous sommes tous différents les uns des autres. De même qu'aucune feuille de chêne n'est pareille à une autre feuille de chêne, nous sommes tous différents, identiques. à notre propre identité simplement. Nous avons nos besoins, nos difficultés, nos nuances représentent toutes les gammes, toutes les possibilités. Nous sommes à nous-mêmes, chacun, tout un monde déjà. Et c'est dans ce monde, dans le monde de notre propre cœur, que la parole est venue habiter, créer, transformer, consommer. Elle a habité en nous, nous dit le texte. Dieu n'est pas venu comme une simple visite. Vous savez, sur le Monopoly, simple visite. Il n'y a rien du tout. On passe simplement. Non, Dieu n'est pas venu comme ça dans nos cœurs. Mais il est venu pour y demeurer, pour vivre au-dedans de nous. C'est la parole de Dieu qui est venue nous faire grâce, accomplir ce que nous ne pourrons jamais faire. Elle est venue nous parler pour avoir une communion avec nous et nous sanctifier parfaitement. C'est la parole de Dieu en nous. C'est plus nous qui agissons à partir de ce moment-là. C'est elle qui est à l'œuvre. Ce n'est plus nous qui essayons ou espérons, mais c'est elle qui accomplit. Nous sommes devenus des outils de Dieu. Des outils de Dieu. Mais alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous devrions dire? Mais quel repos! Mais quel repos! Quel repos de ne plus avoir autre chose à faire qu'à lâcher les rênes devant Dieu, à nous laisser guider par Dieu, laisser faire Dieu. C'est cela la vraie vie chrétienne. Christ, pour nous, en nous et par nous, en toutes choses. Laissez Dieu guider les rênes de notre vie. Mais cela ne veut pas du tout dire, comme on pourrait le penser, ne rien faire du tout. Ne plus rien faire du tout, bien au contraire. Mais c'est laisser Dieu agir et faire en nous, et nous avec lui. Il a et il mettra tous les moyens à notre disposition. Et il nous a dit, la parole a habité en nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu ne va pas habiter en nous pour nous consumer complètement. Non, il est plein de la grâce et de la vérité. Voilà la révélation dont nous avons besoin pour nous, cœurs pécheurs, sauvés, mais cœurs pécheurs, souvent insatisfaits, souvent fatigués. Pour nos consciences humaines qui, bien souvent, sont d'abord tourmentées. La loi nous interpelle sur ce que nous ne pouvions, ce que nous pouvions ou ne pouvions pas faire, c'est selon comment on la lit. La grâce nous donne ce que nous pouvons acquérir autrement, tout à fait autrement. Alors, quelle est l'action de la parole de Dieu en nous? Elle procure la foi. La foi croit ce que dit Dieu dans sa parole et s'approprie tout ce que Christ est, tout ce qu'il a. Ainsi, la présence de la parole, pleine de grâce et de vérité, devient un fait particulier et journalier pour chacun de nous, spécifique pour chacun de nous. Tout ce que la parole est éternellement, tout ce que la parole est éternellement, ça veut dire tout ce que nous y lisons et tout ce que nous y apprenons, nous pouvons le faire nôtre. C'est pas nous devons le faire nôtre. La parole ne nous impose pas. Encore une fois, elle nous donne la liberté de pouvoir le vivre. Mais nous pouvons le faire nôtre et vivre ainsi une vie chrétienne normale, simplement normale. La parole créatrice accomplira dans nos vies la promesse, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. De Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu commence cette œuvre en chassant la mort et les ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Balaam? Il a chassé les ténèbres de ses yeux, simplement, ce matin. Il a chassé les ténèbres de ses yeux. Il produit en nous, Dieu, le Christ, une image de sa vie à lui. Toute cette plénitude, elle n'est pas réservée à une élite, elle est au contraire pour le plus faible, le plus jeune. Alors, osons le croire. Tout simplement, osons recevoir cette parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. nouvelles créatures. Est-ce que nous sommes des nouvelles créatures? Ah, c'est une interrogation. C'est pas facile de répondre comme ça, hein. Est-ce que nous sommes des nouvelles créatures? Alors, oui, pour nous, nous avons cette conscience, mais pourquoi Dieu nous a placés dans un monde perdu? Pour nous, c'est simple. Pour nous. Il suffit de croire, et c'est ce que nous prêchons, il suffit de croire à la résurrection le troisième jour après Pâques et le confesser pour être sauvé. C'est ce que nous dit notre texte. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois au Seigneur Jésus, mort et ressuscité, tu seras sauvé. Romains 10, 8, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du corps qu'on parvient à la justice, du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croira ne sera pas confus. Voilà pour les chrétiens. J'ai envie de dire, voilà pour nous. Ça, c'est fait. Ça, il faut bien l'avoir assimilé déjà. Mais ça, c'est fait. Mais Paul s'adresse ici aux Juifs. Aux Juifs qui n'acceptaient pas que cette parole soit aussi active pour les autres, pour ceux qui n'étaient pas des Juifs, pour ceux qui n'étaient pas de cette race élue. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Donc cette parole, ce qui gêne les Juifs, c'est qu'elle est active pour les autres, pour ceux qui ne sont pas de cette souche. Ça veut dire, par rapport, si nous nous transportons et que nous nous mettons du côté des Juifs, eh bien, ce qui gêne là, c'est que cette parole, elle est aussi active pour le monde. Elle doit aussi être active pour le monde. Les non-juifs, le monde, représenté ici par les Grecs, dans notre texte. Il y a les Juifs et il y a les Grecs, les autres. Il y a donc, d'un côté, il y aurait donc d'un côté les chrétiens, et d'un côté les autres. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés. Deux choses différentes. Et vous l'avez vu dans le texte que nous avons lu, le deuxième texte, le souci de Paul est pour tous les hommes. Après avoir expliqué ce merveilleux plan de salut, Paul dirige les regards de ses lecteurs, de nous, au travers de ce texte, vers ce monde dans lequel nous vivons, ce monde perdu, corrompu par le péché, épuisé de ses souffrances, noyé dans ses problèmes. Et Paul s'arrête ici. Et Paul, il souffre quand il dit ça. Il est saisi des interrogatifs pour poser quatre questions. Pour nous poser quatre questions. Et ces quatre questions sont vraiment comme des flèches de Dieu qui pénètrent notre conscience de chrétien, qui doivent pénétrer notre conscience personnelle de chrétien. C'est-à-dire de personnes qui ont cru en Dieu et qui, par rapport à la parole, sont sauvées, donc. Ces quatre flèches nous mettent devant nos responsabilités quant au monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons. C'est-à-dire exactement là où Dieu nous a placés, là où Dieu a voulu que nous soyons. Est-ce qu'on est de ceux qui pensent qu'on est là par hasard? C'est pas important, là exactement où on est. On peut se demander qu'est-ce que je fais, oui, quelle place j'ai. Mais c'est justement l'interrogation que l'apôtre Paul veut nous poser. Et à ces quatre points, comment donc invoqueront-ils? Donc, comprenons-nous bien, comment donc, c'est notre réflexion de nous chrétiens, comment donc les gens qui ne sont pas à l'église ce matin, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir invoquer quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas? Et là, Paul nous met devant nos responsabilités. Qui peut réellement saisir et compter les bienfaits qui résultent du simple fait croire du cœur en Jésus-Christ, ce que nous croyons nous? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, dit l'apôtre Paul dans le même chapitre. C'est-à-dire sauvé du péché, sa culpabilité, sauvé de la puissance présente du péché, sauvé du lac de feu et de soufre, sauvé pour l'éternité. Mais ceux qui n'ont pas invoqué le nom de Dieu, c'est-à-dire la grande majorité, c'est peut-être 99,9999% des gens qui nous entourent. On n'est pas beaucoup de chrétiens, hein, dans le monde. On est très peu à croire en Dieu, à croire que Dieu nous a sauvés parce que nous l'avons invoqué. Mais ceux qui n'ont pas invoqué son nom pour X raisons, et je ne leur jette pas la pierre, mais principalement parce qu'ils n'ont pas entendu cette parole ou parce qu'ils ne l'ont pas reçue, celle-là justement que nous avons reçue et qui est vie en nous, comment pourront-ils invoquer ce nom pour être sauvés ? Quelle sera notre réponse en face des centaines de millions d'hommes qui ne sont pas sauvés? Notre responsabilité. C'est là l'interpellation de Paul, à nous en tant qu'individus croyants, à nous en tant qu'Église de professants. De professants. Nous professons que Dieu nous a sauvés par le message du Christ. C'est tout l'enjeu du plan de Dieu quand il nous est dit d'être dans le monde et non pas du monde. Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Donc il n'y aurait pas de problème. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est là notre ministère de chrétien et toute la difficulté de mettre en action son but ultime, apporter l'évangile à un monde qui rejette la notion religieuse et qui, de plus en plus, cherche particulièrement à l'évacuer totalement de la scène publique. C'est l'exemple d'abus de pouvoir dans bien des pays fermés à l'évangile. On entend souvent parler quand on parle de persécution. C'est ça, simplement. Mais aussi chez nous, peut-être plus près de notre laïcité un peu à la française, qui dépasse bien souvent, voire ignore, la notion même de liberté de penser et de croire, qui sont des piliers pourtant de notre constitution et de notre république, simplement. Ainsi, dans notre monde, en France, pour prendre l'exemple de notre pays, non seulement notre société rejette nos valeurs, mais aussi rejette purement et simplement les chrétiens, bien souvent. Ouvrons nos oreilles. Officiellement, cela n'intéresse pas les gens. Combien de personnes vont dire « Moi, la religion, ça ne m'intéresse pas. Du tout, je ne suis pas concerné, quoi. » Simplement. Et cela même, sans même, au niveau de l'État, leur demander aux gens leur opinion. L'État, la société, a décidé que c'était à évacuer, simplement. Il est facile de se rendre compte que ça n'est pas si simple que ça, d'évacuer des valeurs. Alors la question se pose de façon simple et claire dans le texte de Paul. Et nous la posons, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Remettons-nous chez nous 2 minutes, dans notre maison, et prenons les maisons du tour. Est-ce que ces personnes-là ont déjà entendu parler de Christ ? C'est une question qu'on se pose chacun. Est-ce qu'ils savent qu'il existe un Dieu, un Jésus-Christ ? Je ne vais même pas jusqu'à dire, est-ce qu'ils connaissent son histoire, mais est-ce qu'ils savent déjà ? C'est un appel direct à nous remettre en question sur notre propre témoignage. Que faisons-nous pour notre prochain ? Le voilà, notre prochain. Ce mot, il est compliqué à expliquer aux enfants à l'école du dimanche. Notre prochain. C'est facile de dire, c'est le prochain qu'on va croiser. Oui, mais c'est vraiment celui qu'on va croiser, qui est mis sur notre chemin, notre prochain. Sommes-nous insensibles au fait que peut-être il cherche Dieu, que peut-être il n'a pas eu la chance d'entendre même parler de lui ? Il y a tous les panels. À quoi servent nos prières pour le monde si nous ne nous prenons pas en main pour aller dans ce monde présenter ce plan de salut de Dieu ? Et Paul va plus loin dans notre interpellation personnelle, dans notre interpellation, et s'adresse aux croyants et à l'Église dont ils sont membres en tant que témoins. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Ça veut dire, il y a là cette parole qui donne des éléments, mais la plupart des gens ne l'ont jamais vue. Alors comment vont-ils pouvoir l'entendre si personne ne va la leur porter ? En dehors de nos églises, parfois bien sécuritaires, des centaines de millions d'âmes sont sans espoir, sans Dieu, sans parole. Et il est facile de constater quand même que peu de personnes veulent aller vers elles pour les conduire à Dieu. Qu'en est-il de nous, personnellement ? N'avons-nous pas la force ? Ou alors n'avons-nous pas suffisamment de foi ? Sommes-nous trop petits ? Trop timides ? Je ne sais pas. Trop je ne sais pas quoi ? La mission nous paraît-elle trop grande ? Un homme un jour était simplement occupé à battre du blé, simplement, et Dieu l'a appelé, lui a dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël. » Il n'a pas de qualification, il battait du blé, simplement. Il lui a dit encore, « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et c'est ce que Dieu nous dit. Paul insiste encore un peu plus en imprimant pour l'Église ce message de Dieu, en le nommant directement et en mettant chaque chrétien devant ses responsabilités. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? L'importance pour l'Église de sentir aussi cette mission d'apporter au monde cette parole. Je me rappelle que dans la petite salle où j'allais au culte quand j'étais gamin, on était 10 au culte peut-être, une toute petite salle, et il y avait des images. Et il y avait un grand champ de blé, c'était marqué dessous, j'ai jamais rien compris à ce truc-là quand j'étais petit. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Ça me frappait tout le temps, et puis bien sûr des années après j'ai compris, mais c'est une image qui m'a toujours frappé, il y a un beau champ de blé. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est nécessaire, c'est louable, mais davantage, Paul insiste à la suite de ça, est-ce que nous sommes prêts à l'exaucement de notre demande ? Priez pour que Dieu envoie du monde pour annoncer l'évangile. Est-ce qu'on est prêt à entendre en retour ? Ok, go, vas-y. Fonce. L'appel est là. Ce sont bien souvent les réponses qui manquent. Et là, c'est à chacun de nous de se remettre en question et de se reprendre. Un appel qui est là, clair, précis, un appel à témoins. Un appel à témoins. Un appel à témoigner qui s'adresse à chacun de nous, à chacune de nos églises, aujourd'hui encore plus qu'au temps du Christ. C'est la conséquence normale d'un besoin connu et notre juste reconnaissance de cœur envers celui qui nous a sauvés. C'est simplement obéir aux dernières paroles, à une des dernières paroles du Christ ressuscité, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre ». Alors, annoncer l'Évangile n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, à des pasteurs, à des missionnaires, à des évangélistes. Témoigner est non seulement nécessaire, mais totalement normal en retour de ce que le Christ a fait pour nous. Est-ce que chacun de vous est appelé à être missionnaire ? Oui, mais peut-être pas pour aller en Afrique, ou pour aller dans un pays lointain, dans un pays en guerre. Est-ce que chacun de vous est-il appelé à devenir pasteur ?
Oui.
Alors, chacun est appelé à apporter la parole et à prendre soin des autres. Par contre, tous ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur et Seigneur sont appelés enfants de Dieu et témoins de ce Christ ressuscité. Et donc ont cette mission et ce travail parmi ceux qui sont proches ou parmi ceux qui sont plus loin, comme Dieu les enverra. L'apôtre nous met devant nos responsabilités en tant que croyants, sauvés, ayant eu accès à la parole, et notre responsabilité en tant qu'Église fidèle d'être ses témoins, Autant en tant qu'individu, nous devons être témoins, autant qu'Église, nous devons avoir cette place visible. C'est la mission première de l'Église, annoncer l'Évangile, annoncer la parole. C'est aussi la vision que doit avoir l'Église. J'ai été surpris, la semaine passée, je cherchais sur Google Earth, je cherchais un village en Pologne pour y trouver une usine où je dois aller charger de la marchandise. Et puis, moi, je suis un peu curieux, j'aime toujours bien regarder, j'aime bien visualiser. Et j'ai appuyé sur le petit Street View, vous savez, et j'ai tiré le petit bonhomme jusque dans le village. Et manque de peau, il n'y avait rien du tout, quoi. C'était tout plat. C'était pas tout plat. Il y avait un bâtiment qui était en relief. Vous avez vu qu'il y a des bâtiments en 3D maintenant ? Et ce bâtiment, c'était l'église. On voyait tout plat, un trait, et l'église. Ça m'a frappé, j'ai dit, tiens, cette église, on la voit. Et vraiment, j'ai pensé à cette idée de l'église qu'on voyait de loin. C'est quelque chose qui était le point. Dans ce village, la seule chose qu'on voyait, c'était l'église. Ça m'a interpellé. Pratiquement, quelle relation nous faut-il entretenir avec ce que nous appelons le monde et ce qui nous gêne d'appeler le monde, parce qu'on est dedans du matin au soir. Quelle relation on a, quelle relation on doit avoir avec l'ensemble en fait, des gens et des structures dans lesquelles nous vivons tous les jours parce que Dieu nous y a placés comme témoins. Il y a plusieurs façons de répondre, de voir les choses. Plusieurs réponses possibles à cette question. Qu'est-ce que je dois faire, moi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, je vous en propose trois, il y en a plein. Je vous en propose trois, dont deux qui ne vont pas du tout. Il y a celle de ne pas se confronter. Non. C'est-à-dire de se séparer d'avec ce monde, rester à l'écart dans une sorte de fermeture hermétique invisible. Celle-là, elle est bien visible, parce qu'on se débrouille bien pour la mettre invisible de notre côté. Je ne veux pas me laisser polluer par ce monde impie. Par contre, je dois aller acheter mon pain. Cette ivraie qu'il m'est demandé d'extirper, je ne veux pas avoir de contact avec elle. Il y a d'un côté l'église et ce que j'y vis le dimanche, cloisonné, fermé, puis de l'autre côté, la société, et il n'y a pas de relation entre les deux. C'est-à-dire le dimanche, je suis religieux, la semaine, je suis laïque. Mais, moi ça m'a aussi fait rire, mais est-ce qu'on n'est pas souvent dans cette recherche-là ? Ou encore, par rapport à l'Église, une Église fermée qui vit en autarcie, par elle et pour elle, dans un rituel ou autre chose, et qui fait que l'Église ne sort pas parce que ce qui est à côté va la sortir et la désécuriser forcément. Frères et sœurs, si tel était le plan de Dieu, et si chaque chrétien avait agi ainsi, nous n'aurions jamais entendu parler du message du Christ. Nous n'aurions jamais entendu parler du message du Christ. Le monde, notre société, notre pays prône la laïcité, on l'a dit déjà. J'ai cherché la définition de la laïcité, c'est intéressant, hein ? C'est le principe de séparation de l'État et de la religion. Mais c'est la suite qui est intéressante, dont l'impartialité et la neutralité de l'État à l'égard, donc l'impartialité et la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. C'est-à-dire l'État doit être neutre. Nous n'y trompons pas, cette notion de laïcité a totalement évolué, dans le sens où, poussée à l'extrême, elle vise simplement à museler l'expression de la foi dans la société, donc, hein, on est bien d'accord, en la refoulant au niveau de la pratique individuelle, pour une soi-disant garantie de liberté de conscience. En fait, le politique, ce qui est le politique, ce qui nous dirige en fait, hein, même pas le parti politique, je veux dire l'institution, les institutions qui nous dirigent, qu'elles soient de n'importe quel côté en fait, rêvent d'éradiquer la question religieuse parce qu'elle remet bien souvent en question la façon de vivre dans la société. Tant que la religion se cantonne dans des tâches sociales ou d'entraide, dont l'État a vraiment besoin, qu'avoir tout le bénévolat qui est fait par la Croix-Rouge, par envoyer un conteneur, par tout ce qu'on peut faire de pratique parce qu'on aime notre prochain, notre voisin. Tant qu'on le fait et qu'on ne claironne pas « je le fais parce que j'aime Dieu », là ça va bien. On en reconnaît le bien fondé, on en encense même les résultats, pas de problème. Dès qu'on parle de pauvreté, on est d'accord d'entendre ce que dit Emmaüs, par exemple. Mais quand Emmaüs dit « mais ça, ça ne va pas du tout », là on n'entend plus Emmaüs du tout. Ça ne correspond pas à ce qui est politiquement correct. Mais quand l'Église veut se mêler au débat de la société, ou faire entendre sa voix, sa différence, au nom de ses croyances et des bases de sa foi, on brandit à nouveau le drapeau de la laïcité. Est-ce là ce que Dieu veut pour l'Église? Est-ce là ce que Dieu veut pour nous? Question à se poser. Est-ce que Dieu veut que nous soyons des chrétiens retirés du monde? À ce moment-là, il faudrait construire des grands monastères et tous ceux qui croient en Dieu iraient dedans et vivraient dedans sans aucune relation avec le monde, simplement. Mais comment entendront-ils parler? Une deuxième réponse serait la voie de l'extrémisme, c'est-à-dire un endoctrinement à tout prix. On sait ce que ça veut dire, extrémisme, chez nous, hein, dans nos sociétés occidentales. Malheureusement, on met toujours musulmans derrière. Tout faire pour convertir ou obliger à croire. Attention, la foi vient de l'acceptation consentie du sacrifice du Christ. Elle est le fruit d'une décision libre, volontaire, réfléchie d'un individu. Nous ne sommes pas placés ici pour convertir de force tout bref ça. Non. Même coûte que coûte, non. Conformer le monde à notre façon de penser, de faire, de dire, n'est pas non plus la vision ni l'appel de Dieu pour son Église. Non. Nous avons suffisamment vu dans le passé et voyons suffisamment de nos jours où mènent les extrémismes politiques ou religieux. Et il serait bienvenu de nous remémorer aussi tous les dégâts causés dans l'histoire de l'Église et du monde, et aussi bien de nos pensées, de nos bien-pensantes communautés, tous les dégâts dus à l'application de pensées ou de théories extrémistes religieuses. Malheureusement, l'Église et la vie de la société est pleine de ces directives extrémistes qui ont amené à nombre de morts, de persécutions, de rejets. Il suffit de suivre un petit peu l'histoire, simplement, et de se rendre dans des églises, dans des monuments, dans différentes villes, et on voit tout à fait ça, de façon claire et précise, et tout près de nous. Tous ces débats sont dépourvus de la vision de la grâce de Dieu, de la vision de l'amour de Dieu. Dieu est amour, et cet amour peut et doit être notre rempart devant les inévitables, je dis bien inévitables, tentations ou dérives extrémistes qui trop souvent nous guettent, et nous avons le devoir de faire attention et de nous reprendre les uns les autres, et aussi en tant qu'Église, pour ne pas tomber très facilement dans cette caricature qui est de vouloir amener chacun à sa façon de penser. Frères et sœurs, la réponse que Dieu attend de son Église et de ses enfants qui y vivent au milieu de la société, même hostile, souvent très hostile, est un chemin d'ouverture au contraire. Et c'est la troisième voie, et c'est la voie que Dieu veut, d'ouverture, d'accueil et de témoignage. Plus que jamais, l'Église, je dis bien l'Église, mais l'Église c'est nous. Nous avons cette place et ce rôle dans la société. Notre place est là pour vivre en tant que témoin, en tant que chrétien, pour vivre autrement dans la société où Dieu nous met, avec d'autres bases que celles de la société, avec d'autres façons de concevoir les rapports humains, de partager, de s'engager. Ce qui est comme base pour la société, c'est pas l'amour. C'est d'abord le profit, c'est simple. Plus que jamais, l'Église, celle de Jésus-Christ, est au milieu du village. Au milieu du village. Elle doit être un petit peu un phare pour la société. Quand vous arrivez, et je reviens sur mon Église, quand vous arrivez dans un village que vous ne connaissez pas, et que vous voulez vous repérez par rapport à quoi de nouveau ? Par rapport à l'Église ? Parce qu'on sait que c'est le centre du village. Est-ce que c'est notre conception de la vie ? La mission de l'Église et du chrétien aujourd'hui, plus que jamais, est d'être un point de repère pour notre société, une lumière visible dans un monde de ténèbres. Alors ça, c'est caricatural, hein, hyper caricatural, mais qu'est-ce que Dieu dit quand il dit « Vous êtes la lumière du monde ?» Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il dit après dans le texte ? Vous ne la mettez pas sous un seau. Ça ne sert à rien. Les gens ne la verront pas. Elle n'éclairera pas autour. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire, moi Dieu, je connais le monde. C'est moi qui l'ai créé. Et je vous l'affirme, ce monde a besoin d'être éclairé. Éclairé par qui ? Si vous, vous êtes dedans. Et le texte de Matthieu va plus loin encore en nous intimant à l'action dans notre responsabilité d'individu et d'église. Moi, je trouve ce verset extraordinaire. C'est pour moi un des plus beaux versets de la Bible. Où il nous est dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et la suite, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Vous avez déjà réfléchi à ça ? Si votre sel que vous mettez dans vos pâtes ne sale pas. C'est pas très bon, hein ? Et comment est-ce qu'on va faire si ce sel ne sale pas ? C'est ce que Dieu nous demande d'être par rapport au monde. Et vous savez ce qu'il est fait de ce sel ? Si ce sel ne sale plus, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas ce sel pour le monde, nous n'avons aux yeux de Dieu, plus de valeur que d'être écrasé par le monde. Est-ce ça une église debout ? Relisez ce texte, Matthieu 5, verset 13. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Nous n'avons pas d'autre alternative que d'être lumière et sel. Sinon, celle d'être éteint complètement et d'être écrasé par le monde. Dieu attend de son Église qu'elle soit le sel de la terre. C'est notre mission, le monde a besoin de ce sel, c'est Dieu qui le dit. Dieu nous interpelle sur notre engagement. Aujourd'hui, on dirait sur notre lisibilité. C'est la même chose, hein ? La lisibilité ou l'engagement. En quoi est-ce qu'on est crédible ? Il nous veut témoins au milieu du monde. Témoins par notre vie, nos comportements, notre honnêteté, notre accueil, notre amour, notre main tendue, notre service. Et cela sans jamais rien attendre en retour. Sans jamais rien attendre en retour. C'est pour cela que Dieu nous a placés ici-bas, au milieu de ce monde. Alors qui se lèvera ? Qui sera témoin ? C'est une question qu'il nous faut nous poser. Est-ce que je serai, moi, dans mon Église, que ça soit celle-là ou une autre, mais est-ce que je serai, moi, dans mon Église, ce sel qui sale vraiment ? C'est Dieu qui le dit encore, et c'est aussi là la question vitale, pour notre société, pour l'Église, pour moi-même, si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va lui rendre ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Je vous invite à un petit temps de réflexion là-dessus et vraiment à réfléchir, est-ce que je sale ? Est-ce que je sale ? Est-ce que j'éclaire dans mon comportement ? Puis après nous chanterons un dernier chant. Seigneur, nous voulons te remercier de ne pas nous permettre de rester dans une vie de routine toute simple, et de nous remettre devant toi chaque jour par rapport à ce que tu attends de nous pour nos contacts là où tu nous places. personnellement. Tu connais chacun de nous. Tu connais notre engagement personnel, notre vie, nos difficultés, nos soucis, nos joies. Tu connais nos qualités, tu connais nos défauts. Mais c'est dans nos cœurs, à nous, personnellement, que tu as voulu venir vivre, pour y régner. Et nous voulons te prier ce matin de nous interpeller sur la place où tu nous as mis, de nous guider personnellement. Aide-nous, Seigneur, à comprendre au travers de ces passages que nous avons lus ce que toi tu veux de nous. Aide-nous aussi à réfléchir que si nous avons un privilège énorme, une grâce, puisque c'est ta grâce, de te connaître et d'être sauvés par toi, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous ne devons pas le garder pour nous, et d'autant plus que c'est la mission que tu veux nous donner, que tu nous as donnée, d'être tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vrai, Seigneur, nous ne regardons pas bien loin souvent, mais déjà que cette extrémité de la terre commence par ce qui est tout près de nous, et puis s'élargisse après aussi, si tu nous le demandes. Nous te prions, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, et comme tu as enlevé ces lunettes tout à l'heure, que tu puisses aussi enlever nos lunettes qui nous empêchent de voir juste devant nous et de voir autour. Nous avons besoin que tu nous boostes, Seigneur, que tu nous pousses et que tu nous remettes en question dans notre façon de vivre, de fonctionner, d'être, avec cette assurance que si nous proclamons ton nom, nous serons sauvés. Te prions, Seigneur, que tu nous aides sur ce chemin, chacun, là où tu nous mets. Amen. Nous chanterons un dernier chant. Je vous invite à vous lever parce que chanter un chant qui s'appelle « Toi, lève-toi » sans se lever, c'est juste pas possible. Alors c'est plus que se lever de sa chaise, c'est se lever pour être en marche avec Dieu. Et c'est un engagement qu'on vous invite à prendre, que je vous invite à prendre par rapport à ce texte que nous avons lu et ces soucis de l'apôtre Paul. Je partage avec vous quelques annonces concernant cette semaine, les activités de cette semaine. Demain soir à 19h30, conseil d'anciens. Mardi, nous avions demandé de réserver cette date pour une réunion de membres où on souhaite vraiment la présence de chacun. Le conseil vous fera part lors de cette soirée d'une communication importante concernant la vie de l'Église. C'est important pour que le conseil et pour l'Église que les plus grand nombre de personnes soient présents. Mercredi chorale. Mercredi chorale. Dimanche, nous aurons notre culte. Nous aurons un invité qui nous apportera le message. C'est Larry Lloyd, pasteur de l'église Crossroads, qui sera traduit par John. Voilà pour les activités de l'église cette semaine. Je n'oublie rien. Je vous mets à la sortie, sous le panneau, une carte. Elle est petite, donc vous écrirez petit. C'est simplement le but, c'est de mettre votre nom, une petite signature. On va envoyer ça à Jean-Philippe et à Noëlla, qui se marient le samedi d'après. Donc vous essayez de la remplir. Tout cela, il y a la place. Il faut écrire petit, on en met dans tous les coins. Et puis on enverra un petit message avec rapidement en début de semaine pour qu'il ait. Donc on veut se réjouir aussi pour ce mariage qui aura lieu le samedi d'après. Continuons à penser aux personnes qui souffrent dans l'Église. Je pense à Madeleine qui n'est toujours pas là, toujours en convalescence. Anne-Lise qui nous a rejoint mais qui doit être véhiculée aussi et pour qui c'est un petit peu un changement aussi dans sa vie. On veut vraiment continuer à prier pour toutes les personnes qui souffrent dans l'Église. Voilà, je n'ai pas d'autres annonces. Oui ? Oui ?
C'est pas long. Si jamais vous n'aviez pas remarqué, j'ai mis un petit truc au fond là-bas. C'est le faire-part de notre mariage, donc de Mathieu et moi. Alors, je veux juste vous dire, comme ça, quand même, en direct, que vous êtes tous cordialement invités à notre mariage. Donc, à la mairie et à la cérémonie, comme vous voulez. Donc, ça se passera à Échenevay à 14h à la mairie et à 15h, toujours à Échenevay, la salle des fêtes qui est à côté. Donc, le 3 août.
Merci, on est content de vous voir. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent les deux ensemble, mais vous partagez aussi, ça va s'arranger. On est content de vous voir et on va vraiment aussi se réjouir de votre engagement. Je vous invite à vous lever et je vous lirai encore un ou deux versets qu'on trouve au début de l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, et qui nous invite aussi à nous rendre compte de ce qu'on est, de ce qu'on est pour Dieu. Paul, appelé à être apôtre du Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à l'Église de Dieu qui est réunie à Corinthe, et à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, c'est pour nous. Appelé à être saints et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur Jésus, c'est ce que nous avons dit ce matin. Leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous donne cette bénédiction ce matin. Allez en paix, que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde à votre place de témoin. Amen.